Édouard du côté, Dieu moderne. Dans la maison où il était prié, M. Cristoforo Tacca prenait au soir du repas position contre la cheminée du salon et le coude sur la tablette, le poids du corps sur une jambe, la main jouant avec le fil du monocle. Il commençait à pérorer aussitôt que devant lui le demi-cercle des dames était formé. M. Tacca jouissait d'une solide situation de parasite. Ses discours d'après-dîner étaient le témoignage d'une digestion reconnaissante. C'était un petit octogénaire merveilleusement conservé, à l'œil aigu, sous le sourcil hérissé, au teint clair, à la blanche moustache coupée ras. Son geste était prompt et menu, sa mise modeste mais soignée. Il s'exprimait correctement en notre langue avec l'accent qu'il tenait de la sienne. Il était un peu dur d'oreille, sobre et gourmet, appréciant mets et vins avec discrétion. Il faisait un convive parfait. Il montrait cette courtoisie qui fut à toute époque le privilège des vieillards, sans doute parce que les manières subissant une continuelle décadence, les vieillards, même médiocrement surappris, paraissent toujours raffinés auprès des générations nouvelles. On possédait peu de données sur cet hôte couru. Il avait, paraît-il, exercé jadis un commerce de pâtes alimentaires à Naples, sa patrie, et c'était à la suite de revers mal défini, qui était venu s'établir en France. Au surplus, s'inquiétait-on de lui fort accessoirement. Il tenait aux yeux du monde toute sa raison d'être du fait qu'il était un des rares survivants ayant eu l'avantage de connaître Dieu. Et voici un peu de variante près le récit qu'il produisait avec cette simplicité détachée qui affirme la supériorité du conteur devant son auditoire. J'étais alors un tout jeune homme, j'habitais avec mes parents le populeux faubourg de la Barra. Notre maison touchait celle de Giuseppe Dio, et notre enclos n'était séparé du sien que par un mur assez bas. Aussi m'était-il aisé de contempler de ma fenêtre mon voisin, quand il se promenait ou soignait ses carrés de légumes. Par le beau temps, il recevait les visites assis sur un banc qu'abritait le large branchage d'un figuier, et comme il suffisait de prêter l'oreille pour ne rien perdre de ce qui se disait à côté, je recueillis bien des paroles en ma mémoire et je fus le témoin favorisé de scènes capitales. Ne vous étonnez point si je ne me suis contenté d'indiscrétion et si je n'ai pas tiré un meilleur profit de si précieux voisinage. Outre que j'étais affligé de l'excessive timidité de l'adolescence, j'avais reçu de mon père la défense formelle d'engager la moindre conversation avec celui qu'il nommait irrespectueusement le vieux fou. La peur des corrections acheva de me retenir à la maison. Mon père, je dois le confesser, était d'une grossière nature, il était borné et brutal. Seul parmi tous, il resta fermé à l'évidence. Il n'accepta jamais que Giuseppe Dio pût être Dieu lui-même. Sur le moment, certes, je ne me rendais pas un juste compte des trésors entassés par mon espionnage. Plus tard seulement, cela s'éclaircit en mon esprit. Ma naïveté me valut au reste la chance des seules paroles que le célèbre personnage m'ait adressées. Une cruelle maladie venait de m'enlever ma mère, et pour me distraire de mon chagrin, une de mes parentes avait proposé de m'emmener pour la saison chaude dans un petit bien qu'elle avait au bas flanc du Vésuve. Je me félicitais d'échapper à la tyrannie paternelle, mais mon père apportait, j'ignore pourquoi, quelques réticences à me donner son consentement. Désespéré, j'imaginais de prier pour la réussite de mon désir. Me voici donc à genoux, sur une table poussée contre l'appui de la fenêtre, étendant mes mains jointes vers l'être en qui mon ingénuité voyait un seigneur tout-puissant. Il ne me découvrit pas d'abord, mais quand, la tête par hasard levée, il put m'apercevoir, il me cria « Tu perds ton temps, mon garçon !» Et là-dessus, mon père, qui venait d'entrer sans bruit, m'allongea un soufflet qui me renversa dans mon oratoire improvisé, et je ne partis point pour la campagne. Et les circonstances me permirent d'assister, peu après, aux derniers instants de notre voisin, fourvoyé d'apoplexie, sur le pas de sa porte à un après-midi de juillet. Il naquit, il mourut. Nous saurions concevoir d'éternité ni d'immortalité. Mon père railla la douleur que j'éprouvais à l'unisson de l'univers. « Oh, trop amorphiste !» m'appelait-il avec fureur, témoignant une fois de plus de son ignorance, puisque l'anthropomorphisme n'eût été qu'une des vieilles erreurs du passé. Bravant injures et coups, j'assistais aux obsèques qui furent une imposante manifestation d'un deuil mondial. Dans son testament, Giuseppe Dio avait demandé la fosse commune. Il restait jusqu'au bout, conséquent avec soi-même. Aucun temple, fût-il funéraire, ne saurait abriter aucun dieu. Je crois superflu de dépeindre notre héros. Des milliers de portraits ont popularisé son visage, et il n'est personne ici qui ne possède tout au moins sa photographie. Combien d'opérateurs ai-je vu défiler? Il en venait jusqu'à 20 par jour. Je ne parle pas des peintres et des sculpteurs. C'était bien à cette époque, cet homme au robuste 60 ans, au visage adoré, tout en nez et en barbe, et à l'ample carrure, tel qu'il figure dans nos musées de cire, et dont pour 10 centimes glissés sous ses lèvres, nous ayons la voix grasse et timbrée, incluse au phonographe. Il est assez difficile de définir son être moral, qui ne présentait aucune de ses traits saillants, où la personnalité de l'individu s'accuse. Il était neutre. L'absence de caractéristiques la différenciait. Sans doute était-il modeste pour qu'il ne se montrait, puisqu'il ne se montrait point d'orgueil, même au fait de sa renommée. Il réglait sa conduite en évitant les extrêmes, et il écartait les passions avec soin. S'il n'accomplit pas d'aucun par d'action méritoire, il n'en commit aucune qui lui prêtât au reproche. Il vivait seul, en société, il parlait peu, mais avec une bienveillance constante. Il était la sérénité, la placidité même. Il cultivait son jardin et sortait rarement au dehors. Le macaroni figurait chaque jour à son menu. Il culottait des pipes en terre. Un murmure de satisfaction qui se répandait dans le salon affirmait combien celui dont on parlait, M. Vaca, était décidément le dieu du siècle, le seul capable de contenter désormais l'inné besoin de religion de l'humanité et en même temps les exigences de la raison. Le cas de Giuseppe Dio avait été des plus simples. Il était né à un moment où, de toutes les métaphysiques sapées par l'analyse, il ne restait plus que des décombres. Un beau jour, il avait monté sur la table rase, proclamait « Io sono Dio » avec une de ces convictions que ni la moquerie ni l'indifférence n'entament. Contre l'idée fixe dont il était possédé, rien ne prévaudrait. La conviction est la plus courageuse des maladies. Tout le monde souhaitait de croire sans trouver l'objet ou appliquer sa certitude. Giuseppe Dio présentait les garanties essentielles pour qu'il fût décemment permis de croire en lui. Son existence était prouvée. Il ne choquait pas le bon sens. Et à ceux qui s'étonnaient qu'il ne fût après tout qu'un homme, on était à l'aise pour répondre qu'il aurait tout aussi pu être une table ou une cuvette, mais qu'alors on ne l'aurait jamais su, à tant faire que de remplacer l'idéal par le réel, mieux valait une substitution plausible. Ces gens-là, surpris de ce qu'il était, auraient été fort embarrassés d'expliquer sans folie ce qu'il aurait dû être. Io sono Dio, avait-il déclaré, sans le souci du ridicule, et ses contemporains consentirent à codifier et à lui édifier une église sur un homonymat. Leurs ancêtres avaient bien construit une église sur un calembour. Oh, il paraît qu'il n'était point loquace, reprenait M. Zaka. Il n'émettait pas l'opinion pour le plaisir. Aussi bien assurait-il n'avoir aucune opinion, n'étant pas le dieu de celui-ci ou de celui-là, mais le dieu de tous. Le moindre parti pris était entravé, eût entravé son universalité nécessaire. Cependant, devant l'illogisme de ses visiteurs, il lui fallut quelquefois remettre les choses à leur place. tout vraiment qu'il se présentât à un honnête petit rentier, l'imagination des hommes lui prêtait comme un recul, l'enveloppait comme d'un nimbe. Oui, dans leur aveuglement, ils auraient presque admis pour un pur esprit. Et il leur disait: Pourquoi sortir de l'évidence? Je suis dans l'ordre des phénomènes, je tombe tout entier sous vos sens. Je n'habite point dans le vide, mais ici, dans cette maison, à côté de vous. Pourquoi vous priver d'illusion? Pourquoi vous en payer de l'illusion? Vous vous destinez à des êtres, à définir l'être par le non-être. Mais quand vous m'aurez transformé en une entité métaphysique, vous l'aurez tout simplement nié. Ces paroles étaient frappées au coin de la stricte sagesse. Je me rappelle une femme de campagne qui portait un panier recouvert d'un linge. Les jambes molles d'émotion, elle s'avança vers lui, qui, sous le figuier, était en train de bourrer tranquillement sa pipe. Au moment de l'aborder, elle chut à genoux avec une adoration muette. Relevez-vous, bonne dame, dit-il. Cette posture est indigne. Suis-je un objet de crainte ou de respect? Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas davantage. Oh, comme vous êtes bon, murmura la paysanne extasiée. Mais non, je ne suis pas bon, je ne suis pas méchant non plus, c'est bien assez. Permettez que je vous offre. Et elle découvrit son panier. Il contenait des œufs et du beurre. Non, non, rapportez-moi vite cela. Merci, je n'accepte rien. Toute décontenancée, elle balbutiait. Oh, j'avais espéré, je pensais, je voulais demander. Voyons, ma brave femme, pour qui me prenez-vous? Vous faites une singulière idée de moi. Quand je voudrais quelque chose pour vous, je ne pourrais pas. Et si je pouvais, ben je ne le ferais pas, je ne le voudrais pas. On ne m'achète pas, moi. Mon désintéressement est aussi indispensable que mon indifférence. Et il parlait d'un ton égal, sans une nuance d'irritation. Il se bornait à constater. Et la campagnarde s'en retourna bouleversée. Elle n'avait pas l'esprit philosophique. Une autre fois, je vis entrer chez lui un jeune homme avec la figure masquée par un affreux lupus. Il était bavard et lyrique. Je l'entendis qui, avec transport, louait Dieu de sa création, des étoiles, de la mer, de l'azur, les fleurs, tout y passait. Giuseppe le laissait dire, mais quand il eut fini, avouez que si j'ai créé ce Pralupus, il n'y a pas tant de compliments à me faire. Du coup, l'enthousiaste fut douché. Et c'est ainsi, mesdames, que dans toutes les circonstances opportunes, il prouvait que la seule manière d'être Dieu, par le temps qui court, c'est d'être le néant personnifié à la portée de notre intelligence. Monsieur Dakar n'épuisait pas d'un coup son répertoire. Il se réservait pour d'autres soirées. Il quittait la cheminée, recevait les remerciements et les sourires de l'assemblée, puis il s'en allait retrouver les hommes au fumoir. Et dans le nuage d'un fort cigare. Il détaillait quelques anecdotes libertines. On les écoutait avec la déférence due au monsieur qui, par ailleurs, a connu Dieu.